Et voilà, il est temps de notre émission Passionnément Vôtre, où je suis ravie d'accueillir mon invité qui est Roch Domérego, que l'on connaît bien sur Fréquence Mistral et à Digne maintenant. Bonjour Roch.
Bonjour à tout le monde.
Alors, bienvenue dans ce studio que tu connais bien, puisque tu animes toi-même régulièrement une émission, deux émissions sur notre antenne.
C'est assez amusant de se faire interviewer. Oui.
Voilà, donc on rappelle que tu animes d'ailleurs ce soir au service de ma ville une nouvelle émission.
Donne la parole aux actifs. Et aux gens qui donnent de l'animation dans la ville, c'est-à-dire les commerçants, les associations et les artisans de Digne-les-Bains, justement pour que la radio locale soit au service des gens qui font la ville et qui font l'animation et qui rendent la ville belle, au fond, vivante.
Et oui. Et le vent de l'art aussi, que tu animes déjà, ça fait plus d'un an.
Oui, ça va faire
plus d'un an où tu reçois des artistes divers et variés de Digne et de ses environs. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de ces émissions, on va parler de toi. Je vais te tutoyer, ça ne fait rien. Et de ton parcours. Et on va parler bien sûr de ta maison d'édition, Baroque Édition.
Oui, c'est une belle aventure.
Voilà, et en attendant, on va de se rencontrer, on va écouter une chanson des Beatles.
Ah oui, volontiers.
Alors, je prends au hasard. Allez, c'est parti.
Love me do.
Alors, Roch Domérego, professeur, écrivain, photographe, voyageur, apiculteur et éditeur.
Oui, en fait, ce sont des étapes différentes de ma vie, mais c'est vrai qu'il y a tout ça. Tout ça se met en place au cours du temps et ça semble comme ça un petit peu étonnant d'annoncer les choses comme ça. Mais en fait, quand il y a la vie qui se met là-dedans, ben c'est vrai que c'est le parcours que j'ai eu. À la fois un parcours où j'étais dans la recherche scientifique, que ce soit autour des abeilles ou autour de la santé et du bien-être à partir des produits naturels, mais en milieu hospitalier. Et puis derrière, ça m'a amené à écrire et de là à éditer. En fait, j'ai eu la chance d'être édité par des grands de l'édition, comme les éditions Lattès, qui édite aussi le Da Vinci Code et des choses comme ça. Bon, moi, à mon niveau, tout à fait incomparable au titre que je viens de citer. Mais voilà, je me suis retrouvé avec des maisons d'édition de renom qui éditaient mes livres. Mais il y avait des livres qu'ils n'éditaient pas parce que trop coûteux à réaliser ou difficiles ou pas assez de clients. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de monter ma maison d'édition pour pouvoir éditer les livres que les autres refusaient d'éditer. Toujours autour des abeilles, mais j'ai pu aller comme ça rencontrer des chamans et parler, par exemple, de l'abeille sacrée que les Mayas vénèrent. Et d'avoir justement des rencontres et de la matière à écrire un livre et à faire des photos sur ce livre-là, sur ces abeilles-là. De toute façon, mon créneau, c'est toujours les abeilles, donc j'ai écrit autour de ça, c'est mon 10e livre.
Alors avant de venir à cette maison d'édition, qui a été créée en quelle année alors ?
Ça a été créé en 2010.
Ah oui, c'est assez récent.
Fin 2010, oui, tout à fait.
C'est assez récent. Alors, avant tout ce parcours qui a mené à la maison d'édition, il y a eu beaucoup de nombreux voyages. Tu as vécu à l'étranger
Alors, j'ai vécu 10 ans en Afrique, dans différents pays. Rwanda, Sierra Leone, Guinée-Conakry et Gambie. Et puis, j'ai vécu 20 ans en Belgique, mais en voyageant beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir des métiers où, pour moi, c'était une chance de voyager. J'ai rencontré aussi des gens qui trouvaient ça extrêmement fatigant, contraignant de voyager très souvent. J'ai toujours eu la chance de trouver ça palpitant et ça ne m'a jamais lassé. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, que je ne m'en plains pas, au contraire, j'en suis très heureux d'avoir eu ce privilège-là. La rencontre avec les gens, la rencontre avec l'autre, c'est quand même des moments précieux.
Alors quel était le but de ces voyages ? C'était professionnel ?
Ah oui, c'était professionnel, c'était en Afrique, j'ai commencé par l'humanitaire, donc j'étais au Rwanda pour 2 ans en tant que volontaire, ce qu'on appelait les volontaires du progrès, ou qui ont un surnom volontaire aux pieds nus, c'était vraiment très très particulier, puisque à l'époque, il y avait le service militaire, et au lieu de faire le service militaire, on avait le droit de faire la coopération. Et dans la coopération, on avait le droit d'être volontaire du progrès, donc voilà, j'ai été volontaire du progrès, et je me suis occupé d'abeilles africaines au fin fond de l'Afrique profonde, au Rwanda, pendant 2 ans, et j'ai étudié les abeilles africaines parce que voilà, je sortais de biologie et j'avais des diplômes apicoles. Et j'ai étudié cette abeille qui est une abeille très agressive. Quand on ne sait pas l'approcher, et on ne savait pas l'approcher, donc on a pris beaucoup de piqûres, mais ça a été captivant. Et puis voilà, de là est sorti certaines publications scientifiques. Et puis après, j'ai été dans d'autres pays africains pour des raisons toujours professionnelles, plus orientées vers le business que l'apiculture et le bénévolat. À un moment donné, il faut quitter et sortir du bénévolat pour rentrer dans la vie, quoi. Parce que le bénévolat, c'est dangereux d'y rester, parce que c'est extrêmement grisant d'être bénévole. Mais d'un autre côté, c'est pas la vraie vie, quoi. C'est un peu monacal quand même, d'être bénévole au fin fond de l'Afrique. Voilà.
Donc un travail sur les abeilles, une passion pour les abeilles depuis toujours, depuis enfant déjà.
Depuis gamin, oui.
Depuis gamin. Il y avait cette passion pour les abeilles ou pour davantage d'espèces
Non, exclusivement pour les abeilles. Mais ce qui est très étonnant, c'est que quand j'avais 7 ans, les premières fois où je suis allé aux ruches, j'étais passionné, fasciné par ce monde-là, mais j'avais extrêmement peur. Je m'étais fait piquer 1 ou 2 fois. Et donc, la douleur était bien supérieure à l'attirance que j'avais. Mais au fond, il était né en moi quelque chose qui est resté. Et puis après, j'ai plus eu mal. J'ai su passer au-delà de la douleur et regarder le côté passionnant.
Donc, cette passion pour les abeilles a entraîné par la suite... Le premier livre a été écrit en quelle année ?
2000.
En 2000
ouais,
aussi.
Il y a 14 ans. Ouais.
Ah oui.
Il y a 14 ans.
Et ah oui, 2000, c'est pas 2000. Oui, je croyais que c'était il y a 4 ans, moi. Je voyais en 2004.
Non.
Il y a 14 ans déjà.
Il y a 14
oui.
ans, oui, tout à fait. Donc, le premier était écrit en 2000.
Il s'appelait comment ?
Ces abeilles qui nous guérissent.
Donc c'était déjà avec le...
Avec les abeilles et l'apithérapie.
Oui.
Et c'était tout le début du parcours que nous avons fait au niveau des Nations Unies pour aider les pays au niveau de la santé naturelle. Donc voilà, moi j'ai enseigné pendant 7 années, mais en fait j'ai enseigné pendant 6 ans à la faculté de médecine Calixto Garcia de La Havane, où j'ai eu mon titre de professeur invité permanent.
Alors c'est pas rien ça.
Oui, j'ai le titre de professeur invité permanent, ce qui est un titre honorifique, j'en suis très fier, et en plus à Cuba, parce que Cuba, d'abord j'aime beaucoup les Cubains, et j'ai une relation très, très intime avec eux, mais en plus de ça... ils ont une approche de la médecine et ils ont une qualité de médecine remarquable qui est connue. Ce sont des gens très compétents et donc voilà, j'ai aimé enseigner là-bas la médecine naturelle. Je l'ai enseigné pendant et j'ai dirigé 4 services hospitaliers. Ouais.
Alors la médecine naturelle en rapport avec l'apithérapie ?
Toujours.
Exclusivement ça ou il y a ça s'est
non mais moi
étendu.
J'étais spécialisé dans ce qu'on appelle les pathologies nosocomiales, les infections multirésistantes et sur les ostéomyélites, c'est-à-dire les infections osseuses et puis il y avait des critères d'amputation et donc on recevait dans le service les gens qui n'avaient plus de possibilité à part d'être amputés pour les traitements classiques. Et donc, on les prenait en main et on a évité comme ça 240 amputations.
Waouh voilà. Ouais. Alors, de quelle manière alors
On utilise différentes compositions médicamenteuses qui sont des compositions à partir de miel, de propolis, d'huile essentielle, des combinaisons moléculaires qui permettent justement d'avoir une action extrêmement puissante contre les bactéries. Même les bactéries multirésistantes, qui ne sont d'ailleurs pas plus résistantes à ces produits-là que les autres bactéries. Elles sont sensibles comme les autres bactéries. Elles sont multirésistantes aux antibiotiques, mais elles ne sont pas plus résistantes que les autres à d'autres produits.
Donc ce temps où vous avez formé aussi des étudiants
en médecine, oui, plus de 600. Oui. On a fait passer des diplômes de spécialité à plus de 600 médecins et pharmaciens qui maintenant, il y a des professeurs qui ont été nommés à Cuba. Et moi, je suis parti j'ai arrêté d'enseigner à Cuba en 2007-2008, voilà.
Et alors avant, il y a eu la Belgique, 20 ans, c'était...
C'était pendant toute cette période-là, parce que j'allais à Cuba tous les mois, une semaine tous les mois, je passais. Donc je vivais en Belgique et j'avais un cabinet là-bas et j'avais aussi, je dirigeais un laboratoire pharmaceutique de produits naturels. Voilà. Et c'est une autre vie par rapport à ce que je fais maintenant, mais c'est une vie qui m'a passionné et qui a été remarquable, à la fois sur le fait de diriger un laboratoire et d'avoir intellectuellement toute ce vécu-là, mais aussi parce que je faisais beaucoup d'humanitaire avec les Nations Unies et le PNUD, en particulier dans les Nations Unies. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Et je travaillais à la fois à Cuba, mais aussi au Burkina Faso. Et j'ai même fait une mission au Cameroun pour le PNUD.
Et vous êtes originaire pratiquement de Norante ?
Oui. Alors,
vous êtes né à Norante ?
Non, pas du tout.
Tu es né à Norante
Je suis né à Montpellier de passage, mais ouais. J'ai grandi vraiment ici dans le coin. Et j'étais au lycée Gassendi, enfin ce qu'on appelait à l'époque le lycée Gassendi, qui est maintenant le collège Gassendi. Et puis après, j'ai fait des études. Je suis passé par Aix-en-Provence et puis Nice à la fac. Voilà. Mm-hmm.
Et un retour à Nourente.
Un retour ici, retour à Nourente où j'ai été baptisé. C'est mon endroit de baptême, Nourente.
On revient toujours à ces premières amours.
Oui, ce département est un département que j'aime et j'ai énormément voyagé. Donc, j'ai d'autant plus... Je trouve que ça m'a permis une chose, ça m'a permis d'apprécier peut-être encore plus à sa juste valeur ce département et la beauté de cet endroit de France. Je ne suis pas sûr qu'il faille obligatoirement voyager pour l'apprécier. Moi, grâce à mes voyages, je l'ai apprécié encore plus, quoi, parce que je sais ô combien ces endroits que l'on côtoie tous les jours sont rares et il est important de les déguster à chaque pas, quoi, à chaque regard, à chaque odeur, à chaque détour. C'est un département exceptionnel.
Si vous aimez la compagnie, la rencontre des gens, vous aimez aussi vous ressourcer, ça fait partie de votre mode de vie régulièrement, d'être en pleine nature avec vos chevaux.
Oui, alors ça j'adore. J'ai besoin d'être seul. Je crois que ça permet de réfléchir, ça permet de poser, ça permet de ressentir et de vivre la nature de manière différente et peut-être sa nature intérieure aussi. De manière différente, et c'est vrai que j'aime être seul à certains moments. Je n'ai pas cette angoisse de la solitude du tout. J'ai beaucoup voyagé seul, et ça ne m'a jamais manqué ou décalé de ne pas être avec à certains moments. Je ne dis pas tout le temps. J'aime aussi la rencontre des gens, j'aime aussi tout ça. Mais cette solitude avec les chevaux dans la nature, c'est magique.
Donc tu as enseigné et puis tu as fait aussi, est-ce que tu as fait une formation de photographe ?
Oui, alors en même temps que j'avais toutes ces activités, quand j'étais gamin au lycée et au collège et tout ça, je suivais des cours de photographie, que ça soit en studio ou en prise de vue. Et donc j'ai toujours eu cette passion parce qu'en fait je ne devais pas faire... Enfin, je ne devais pas, je ne sais pas ce que je devais ou ce que je ne devais pas, mais dans ma tête, je ne voulais pas faire la faculté de biologie et toute la science et tout ça. Là. Ce que je voulais faire, c'était photographe et réalisateur de films. Et d'ailleurs, j'ai fait toute ma scolarité avec, après le bac, l'envie de faire juste ça. Et puis quand j'ai eu le bac, ma famille m'a dit « Non, réalisateur de films et photographe, c'est pas un métier, ça. » Et on m'a dit « La fac, c'est par là. » Voilà. Et donc j'ai obéi. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien ? En tout cas, voilà, j'ai obéi. Et parce qu'il fallait aller à Paris pour... j'étais accepté dans une des grandes écoles de cinéma français qui s'appelle l'IDEC, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques. Et j'étais accepté sur dossier. J'avais tellement... fait de photos, d'expositions et de films. Malgré mon jeune âge de bachelier, hein, j'avais 18 ans, qu'ils m'ont accepté sur dossier. Je n'ai pas eu besoin de passer le concours et donc j'étais accepté. Moi, j'étais le plus heureux en recevant le courrier comme quoi j'étais accepté. Mais ça n'a pas fait bouger mes parents qui m'ont dit « Non, non, la fac, c'est par là. Pas question de faire... des trucs comme ça, c'est pas un métier ça d'être cinéaste, voilà. Et donc, mais j'ai gardé ça dans le cœur tout le temps, et malgré toutes ces années que je viens de décrire, ben je continue à faire de la photo.
Alors la photo de cinéma, mais... la photo de quoi alors de la nature, pas des abeilles tout de suite, ça a été
non, c'était principalement des portraits. Moi, je suis très portraitiste. Et je faisais des portraits dans tous les pays où je passais, des gens que je rencontrais et voilà, ou de situations de la vie, un peu des fois de reportage, quelques photos animalières parce que en Afrique quand même c'est on ne peut pas ne pas et puis voilà, mais j'avais quand même le rythme de mon métier et donc c'était les week-ends, c'est qui m'a amené quand même à faire quelques expositions. Et à être, à certains niveaux, je dirais, reconnu pour mes photos.
On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Rock. À tout de suite.
D'accord.
Ouais.
Alors, je vais Je vais te faire découvrir peut-être Majo. Tu connais ?
Ça me dit quelque chose, oui.
Majo, allez, on écoute. Ouais.
Three words are missing, a deed and a lock that came. I got a few more just to save what I can say. If only I could breathe, I could catch them all. They're flying over me, I can lose control. What if they never come back? What if they see that I'm alive? What if I cannot turn the back? Hey, I didn't lock the cage and I couldn't. I don't need them now, I just need to explain. There's so many, why would I need those? Count them all, maybe I should set them free. What if they never come back? What if they see that I'm alive? What if I cannot turn on the left? Hey, I didn't lock the cage and I couldn't risk keeping it to myself. And I'm doing all I can to find my words. And I couldn't even say them anymore. And I'm looking for a drop dog in the wall. 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 Drop dog in the wall.
Vous êtes sur Fréquence Mistral et nous sommes en compagnie de Roch Domérego, que l'on connaît bien ici et qui nous parle de son parcours qui est assez atypique et de sa passion pour les abeilles qui est toujours là, toujours aussi forte. Et on en était justement alors de professeur Roch Domérego à photographe par loisir, par amour de la photo. Tu as aussi été apiculteur. Tu as aussi
oui, parce que l'amour de l'abeille. Puis oui, et puis j'étais apiculteur depuis gamin, puisque moi les personnes avec qui m'ont élevé et la femme était apicultrice, donc je découvrais tout ce monde-là et j'ai appris. Puis après j'ai passé des diplômes aussi, mais il y a bien longtemps. Et les abeilles étaient le lien. D'ailleurs, c'est au fond parce que quand j'étais comme volontaire au Rwanda, à la place de mon service militaire, quand je me suis rendu compte que, en fait, les produits de la ruche avaient une potentialité incroyable en termes humanitaires pour aider les populations les plus démunies, et en particulier les enfants, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ces produits-là, autre que simplement une alimentation sur une tartine de mettre du miel. Et donc, je me suis mis à étudier tous ces produits, mais au niveau de la santé, au niveau de la biologie, au niveau de ce qu'on pouvait en faire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de publications, même à cette époque-là. Alors, en ce moment, maintenant, à notre époque, il y a énormément de publications scientifiques sur le miel, la cicatrisation des plaies, sur la propolis et les infections, sur le pollen et l'alimentation, enfin... La gelée royale, le venin, il y a énormément de publications. Et du coup, au fur et à mesure des années, je suis devenu un spécialiste en apithérapie. Et c'est comme ça que je suis parti après pour des missions pour les Nations Unies ou même la Commission européenne. Et c'est vrai que ça a été une passion, et une passion auquel je ne pensais jamais en démarrant cette passion ou quoi que ce soit, que j'allais un jour devenir un expert, ainsi un truc, un machin, juste en aimant les abeilles. C'est un peu loufoque de s'imaginer un parcours comme ça. Ça vient parce que la vie s'est présentée et que peut-être j'avais cette mixité de compétences qui crée des paramètres et qui ont fait que j'ai pu avoir le chemin de vie que j'ai eu autour de l'abeille. Mais ce qui est amusant aussi, c'est un jour je faisais un stage, il y a bien des années de ça, hein. Un jour je faisais un stage où certains connaissent ça, on essaie de trouver son animal totem, son animal intérieur, son animal totem. Et alors là, évidemment, c'est toujours l'ours, le lion, le loup, c'est toujours la panthère, mm-hmm. c'est toujours des animaux comme ça qui sortent,
puissant,
l'aigle,
et oui,
ouais, voilà. Et puis moi, il n'y avait rien, je voyais tous les gens qui, autour de moi, dans ce stage, ah, ça y est, j'ai trouvé mon animal totem et tout ça, j'étais sûr et tout. Et moi, je trouvais... Et puis tout d'un coup, est venu à moi que c'était l'abeille. Et tout d'un coup, je me suis senti vraiment bien avec comme animal totem l'abeille. À part que je ne savais pas que c'était... Il fallait être très, très présomptueux pour dire que son animal totem, c'est l'abeille, parce que c'est quand même un animal exceptionnel. Donc, et là, ça vibrait, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que, ben oui, mon chemin de vie, c'était l'abeille, mais que c'était aussi, voilà, qu'il y avait une vraie relation avec cet animal-là. Ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai une super relation avec mes chevaux, donc je ne suis pas exclusif et omnubilé que par les abeilles, mais c'est vrai que j'ai cette connaissance maintenant, cet acquis, et cette relation particulière avec ces insectes.
J'ai envie de faire le lien. Est-ce qu'on peut soigner des chevaux avec du miel ou...
Ah oui, absolument.
Oui, avec l'apithérapie.
Ah oui, oui, oui. Il y a plein de potentialités, que ce soit au niveau des plaies, au niveau des blessures, mais aussi au niveau des infections et ainsi de suite. Non, on soigne très, très bien tous les animaux avec des produits naturels, à l'identique des humains.
Alors, passionné des abeilles, forcément, ça t'a amené à l'apiculture. Ça, on a l'impression que c'est normal, c'est logique, en fait, puisque ça...
Oui, ben c'est ça.
C'est le produit magique des
oui,
abeilles.
Oui, et puis ne pas connaître l'apiculture, c'est pas connaître comment on fabrique les produits, comment on récolte les produits, comment on réfléchit avec les abeilles et comment on les élève. Ou en tout cas, on est complice avec elle pour pouvoir avoir une production. Voilà, et puis de comprendre ça, c'est aussi comprendre ce que veut dire l'industrialisation de l'apiculture ou de cet élevage-là, comprendre les dérives qu'il y a, et voilà. C'est aussi important, quand on maîtrise un sujet, d'en connaître toutes ses facettes, quoi. Sinon, on ne maîtrise pas.
Mmh. Alors, pour en revenir encore aux abeilles, aux dérivés des produits de la ruche, la gelée royale, par exemple, ça coûte incroyablement cher. Comment ça se fait? Un tout petit pot
C'était
de...
C'était extrêmement difficile à produire. Pour produire de la gelée royale, il faut énormément de main-d'œuvre et il faut énormément de temps. Donc, ces deux critères, aujourd'hui, font que la gelée royale coûte... relativement cher, voilà. Et c'est normal.
Ouais. Et le pollen, on le voit sous forme de petits granulés, là.
Voilà. En fait, ce sont des pelotes de pollen qui sont... Quand l'abeille rentre à la ruche, elle a récolté son pollen, et puis on met une trappe à pollen devant la ruche, et quand elle rentre, elle peut passer, elle, mais les pelotes qui dépassent des pattes ne passeront pas. Elles sont recueillies dans un tiroir... Et on en laisse passer parce qu'on n'en récolte qu'à peu près 10% hein, du pollen. Il faut bien que les abeilles se nourrissent.
Comment c'est traité après? C'est pas brut quand on en achète
Oui, bah alors c'est congelé ou déshydraté.
Ouais,
alors le mieux de loin, c'est le pollen congelé, quoi.
Et on le prend en usage pour prévenir de la grippe ou pour prendre des forces. Quelles sont ses vertus?
En fait, c'est le steak de l'abeille. Donc déjà, c'est une alimentation qui est extrêmement favorable au corps et à la biologie, à la fois par la présence de ce potentiel en protéines, puisqu'il y a 5 fois plus de potentiel protéinique dans le pollen que dans n'importe quelle viande, hein, même la meilleure. Et puis, il y a énormément d'oligo-éléments, il y a énormément d'éléments qui sont tous quasiment bénéfiques pour le corps. Donc, c'est remarquable. Ouais, voilà.
Alors, ensuite, donc, on arrive à la maison d'édition, la création. Comment on décide de créer une maison d'édition?
Est-ce qu'on décide ou c'est la vie qui pousse comme ça? C'est-à-dire que j'avais vraiment ces idées d'écrire sur les abeilles et d'aller rencontrer ces peuples qui sont dits primitifs, qui sont des peuples encore peu connus. Hein, parce que même aujourd'hui, est-ce qu'on connaît le peuple des Mayas? Est-ce qu'on connaît les Kogi? Est-ce qu'on connaît les aborigènes? Non, on les rencontre, on essaie d'être avec eux et de faire avec eux sur la planète. Et c'est tant mieux de les respecter de plus en plus. Mais malgré ce, quand on regarde certaines choses qui se passent sur la planète, on s'aperçoit qu'on est très loin de les respecter vraiment. Et eux ont des relations ancestrales avec les abeilles. Et j'avais envie d'aller raconter cette rencontre avec ces peuples-là, ces ethnies, ces différentes sociétés, pour justement voir comment ils nous racontaient, eux, la vie avec les abeilles. Et donc ça, mes éditeurs classiques ne voulaient pas parce qu'il y avait trop de frais, de voyages et tout. Donc j'ai décidé de monter cette maison d'édition pour justement financer ces voyages-là. Et le premier livre que j'ai fait, c'était Mélipona, l'abeille sacrée des Mayas. Je suis allé rencontrer ces apiculteurs chamans qui ont gardé encore l'abeille que les Mayas vénéraient comme le dieu de la vie. Et cette abeille existe toujours. Elle n'a pas de dard, elle a les yeux bleus.
Et oui, ça, c'est assez exceptionnel. Enfin,
voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté au départ ma maison d'édition. Et puis, le bouquin a bien marché. Il a bien été accueilli. Et donc, après, l'aventure est partie. et en faisant ce livre, c'est vrai que j'ai eu, avec la rencontre avec ces chamans et tout ça, je me suis dit, c'est vraiment ça qui me plaît, de faire des photos, d'écrire et de laisser une trace sur une mémoire comme ça qui est importante. Mais j'ai eu aussi l'idée de cette bande dessinée, Mélipona, la princesse Maya, qui sort en ce moment et que j'ai mis... En tout, c'est un projet qui a duré 2 ans.
On en parlera un peu après, on a le temps. Hein. Ouais. Il nous reste presque 1 heure, donc ouais, on a le temps de parler de Mélipona. On va revenir au premier livre, où vraiment des photos magnifiques d'abeilles, des gros plans, on se demande comment c'est possible. Ouais. C'est vraiment un super travail artistique. Ça demande, j'imagine, de la patience. Elles ne sont pas dociles, ces abeilles.
Non, en fait, elles sont pas dociles dans le sens qu'on ne peut pas leur demander quelque chose, mais elles sont gentilles dans le sens qu'elles n'ont pas d'agression. Voilà, mais ça demande de la technique, ça demande de la patience, et ça demande aussi de connaître les abeilles, parce que quand on les connaît, on sait où aller chercher dans une ruche pour voir les belles scènes, pour voir les bons moments, et ainsi de suite. Et donc, c'est un travail de fou, hein. C'est vrai que c'est photographier, faire tout un livre comme ça sur ces abeilles et aller rentrer dans la ruche. C'est un gros travail de minutie, de patience, d'accompagnement aussi, parce qu'on n'est jamais seul hein, dans un projet comme ça. Il y a aussi toute une équipe qui est derrière. Et c'est ce qui coûte cher, parce que pour faire un film ou quoi que ce soit, on sait qu'il y a une équipe. Mais pour faire un livre, habituellement, c'est quelqu'un avec son stylo devant une feuille blanche. Et là, non. Il y avait le voyage, il y avait les gens sur place, il y avait les gens qui venaient avec moi dans le voyage. Donc faire un livre, tout d'un coup, a un coût qui n'a plus rien à voir, et les éditeurs...
Donc le voyage était prévu pour, pour la réalisation de ce livre.
Le voyage a été organisé pour ça. Mmh. Moi, comme j'avais des contacts de mes voyages précédents, j'ai repris tous mes contacts et puis on a organisé jour après jour tout le voyage, les rencontres avec ces apiculteurs chamans. Et puis une fois qu'on y est, eh bien, ils ne vont pas immédiatement ouvrir leurs ruches, présenter leurs abeilles et tout ça. Il faut faire connaissance, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils t'acceptent et qu'ils comprennent dans quel sens tu fais le livre. Et est-ce qu'il y aura du respect de ces abeilles? Est-ce que le livre fera qu'il y aura plus d'amour de ces abeilles? Voilà, ils veulent savoir pourquoi, avant d'ouvrir leur... Parce que ouvrir ces ruches, pour eux, c'est ouvrir leur cœur et leur âme, quoi. Ça représente le dieu de la vie. Hein. Même encore aujourd'hui, pour ces apiculteurs chamans comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà du simple, je dirais, essaim d'abeilles. C'est au-delà de la simple ruche comme ça. C'est vraiment un temple à part entière. Et on n'entre pas dans un temple comme ça, quoi.
Alors, est-ce que ces abeilles Melipona souffrent autant de la pollution et des insecticides là-bas que nos alors, abeilles ici qui sont en voie d'extinction?
Alors, elles souffrent un peu moins, mais elles ne sont pas dans les mêmes coins. Les Melipona ne sont pas proches des cultures industrielles et des choses comme ça. Comme nous, nos abeilles sont toujours très proches des cultures industrielles, puisque la France est extrêmement industrialisée au niveau de l'agriculture. Non, là, ces abeilles sont beaucoup plus dans la campagne ou dans les forêts et dans des choses comme ça. Et les apiculteurs qui sont là les préservent énormément et les éloignent de tout risque de pollution. Donc, il y en a quand même, mais c'est très marginal. La plupart des Melipona la plupart des Melipona spécifiques que les Mayas vénéraient sont encore bien préservés. Il n'y a pas un taux de mortalité comme ça.
Alors, ces abeilles Melipona aux yeux bleus, est-ce qu'elles font du miel aussi est-ce qu'il a une particularité? Est-ce qu'il a un goût très différent?
Oui, il a un goût très différent. Il a une particularité. Il est beaucoup plus liquide. Il a plus d'eau à l'intérieur. Et donc, il se conserve moins bien. Il faut le conserver au frais ou le consommer tout de suite. Alors, c'est à la fois une particularité et puis c'est à la fois extrêmement bien parce qu'au fond, on n'abîme pas le miel, on le consomme tout de suite et donc il a les vertus parce que avant tout, là aussi, ils utilisent le miel à des fins thérapeutiques. Le miel pour la consommation alimentaire, très peu.
Ah oui.
Ce miel de Maya, enfin ce miel de Melipona, est un miel qui va être tout de suite vendu le premier et ainsi de suite parce que ça soigne, parce que c'est sacré. Il y a encore beaucoup de Mayas, hein, donc pour eux, ça représente beaucoup.
Alors, un miel provenant d'une abeille sacrée, alors ça fait quelque chose qui doit avoir des vertus encore plus guérisseuses.
Alors, je ne connais pas bien les études sur les processus thérapeutiques de ces miels-là, mais ce qui est sûr, c'est que eux, traditionnellement, disent que ça soigne divinement bien, et je ne pense pas, pour ma part, qu'il y ait de grosses différences entre le miel des Melipona et le miel de nos abeilles à nous en termes de santé. Je pense que derrière tout ça, il y a aussi la foi, il y a aussi tout un ensemble de paramètres qui créent une rencontre émotionnelle très spécifique. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Au contraire, pour moi, c'est très important. Mais je pense que biochimiquement, il n'y a pas des différences qui sont très significatives.
Et comment on explique qu'elles n'ont pas de dard, qu'elles n'aient pas de dard, ces abeilles?
Alors, c'est une branche au moment, il y a 100 millions d'années, 90 millions d'années, elles avaient un dard.
Ah oui?
Oui. Et puis le dard s'est atrophié en 30 millions d'années quand même. Hein. Mm-hmm. Et le dard s'est atrophié. Il y a 60 millions d'années, on a la preuve qu'elles n'avaient déjà plus de dard. Donc, en 30 millions d'années... Elle ne s'en servait pas, il s'est atrophié. C'est ça qui est sympa, c'est de voir que dans la chaîne de l'évolution des animaux, Habituellement, on dit toujours que c'est les plus forts qui survivent, que c'est parce qu'on a créé des défenses, chacun s'adaptant à trouver les meilleures défenses pour survivre et tout ça. Et l'abeille qui avait un dard, elle, cette abeille-là, a trouvé que c'était pas nécessaire forcément d'utiliser la violence pour se défendre. Et ce dard s'est atrophié, et elle ne morde pas, elle ne se défend pas. Elle s'éloigne simplement quand il y a du tumulte. Et puis elles reviennent, elles reprennent leur activité. C'est assez intéressant à voir le choix de cette non-violence au fond, parce qu'on peut le regarder comme ça. C'est assez intéressant à voir et très interrogeant sur l'évolution des espèces, qui n'est pas forcément une notion de hiérarchie et de dominance, mais qui pourrait être au fond une notion d'harmonie et de mise en harmonie des uns avec les autres pour la survie de leur espèce.
On va faire encore une pause musicale et on revient de suite après pour parler peut-être de cette approche avec les chamans aussi.
Ah oui, hein?
Voilà.
Le décor s'écroule, il m'ennuie parfois. Je le mets en boule dans mon bagage, comme un vieux linge sale. J'en change souvent, tout ça m'est bien égal. Ha, 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 ha. Abracadabra, les envies s'éparpillent. Un jour après l'autre, je dérègle les tours. La tête haute, je marche à rebours.
Je traîne en moi.
Et voilà, vous êtes toujours sur Fréquence Mistral et nous sommes en compagnie de Roch Domérigo, l'invité de Passionnément Vôtre aujourd'hui pour mieux le connaître, connaître un peu plus l'homme et ses passions.
Oui.
Alors on a parlé des abeilles, on va en parler certainement encore et on va revenir au chamanisme. Alors parce que ça c'est quand même une expérience qui n'est pas forcément très courante.
Ah oui.
Une approche avec des chamans.
Des chamans, il y en a eu quand tu vis en Afrique, tu as la rencontre avec les chamans. Enfin, ça s'appelle les marabouts, ça s'appelle les chamans, ça s'appelle les sorciers. Enfin, ça, après, le nom, c'est des choses différentes. Mais ils sont toujours là pour parler de la partie cachée de la vie. Ils sont toujours là pour soigner avec la partie cachée de la vie, évoquer les énergies, évoquer les esprits, évoquer...
C'est-à-dire, est-ce qu'il donne un sens à la maladie aussi ?
Ah, il donne un sens à la maladie, il donne aussi un sens à toute chose. Le chamanisme, au fond, ça donne un sens à toute chose. La pierre qui est là, l'animal qui est là, la nature qui est là, ta relation avec tout ça, ton bien-être, ton mal-être, ta réalité du jour, ta réalité de ta vie, et ainsi de suite. Et donc, moi, je l'ai vécu comme une ouverture d'esprit et pas comme un regard de celui qui sait ou qui est scientifique par rapport à celui qui ne sait pas. J'ai toujours considéré que je n'avais pas peur de rencontrer l'autre et que même qu'il soit le plus différent possible, je n'avais ni peur ni appréhension, au contraire, je trouvais que que cette différence ne pouvait que donner quelque chose de magique et de magnifique. Donc, c'est cette peur, au fond, qui, des fois, nous bloque et nous freine, comme si on ne se faisait pas assez confiance, quoi. Moi, je me faisais confiance dans le sens où l'autre, il n'était pas mauvais, et voilà. Donc, je suis allé à la rencontre de ces chamanismes. Bon, il y a des fois, je me souviens d'une fois sur une île en Afrique, il y a neuf îles qui s'appellent les îles Tortues et qui sont au large de la Sierra Leone. Il y a encore une île où il y a les mangeurs d'hommes et ainsi de suite. Donc ce sont des îles qui ne sont pas très souvent visitées par des Blancs. Et moi, j'y allais assez régulièrement sur ces îles. Et sur une île, un jour, je suis de passage et il y avait un rituel chamanique qui était un rituel de sorcellerie assez violent. Et je passe dans le village et tout d'un coup, je vois que le rituel vient vers moi. Et donc, je fais demi-tour et je m'en vais en marchant de plus en plus vite parce que voilà, je n'étais pas arrivé au bon moment et au bon endroit, quoi. Et donc, je n'ai pas couru parce qu'il ne faut surtout pas courir, mais je marchais vite vers le bateau avec lequel j'étais venu. Un speedboat avec lequel j'étais venu sur cette île. Et j'ai sauté sur le bateau, j'ai mis en marche et je suis parti. Mais je sentais derrière les frissons parce que j'avais tout le rituel qui arrivait très, très vite. Et c'était pas des trucs sympathiques, quoi. Il n'y a pas dans le chamanisme que des trucs sympathiques, je veux bien l'admettre.
Moi, je pense que quand on ne connaît pas quelque chose, forcément, ça fait peur. Quand on voit des démonstrations, c'est vrai que quelquefois, ce sont des démonstrations. Il faut être vraiment dedans. Quand on voit ces transes, ça fait peur.
Ça ne me gêne pas.
Jusqu'où on peut aller en étant en transe, quoi. Mais comme toute thérapie qu'on choisit, quand elle n'est pas choisie, on a peur. Que ce soit la médecine traditionnelle pour un naturopathe ou la naturopathie pour quelqu'un qui est médecine traditionnelle, tout ce qu'on connaît pas fait peur. Et je pense que c'est important pour guérir de faire une totale confiance dans ce qu'on choisit.
De se faire confiance dans ses choix et après, une fois qu'on a fait ses choix, de les accepter. J'ai du mal des fois à comprendre des personnes qui, ayant choisi de faire une chimiothérapie pour un traitement du cancer, ce que je trouve tout à fait judicieux comme choix, tout d'un coup, disent « Oh là là, moi, surtout pas la chimiothérapie. » Non, si tu l'as choisi, va jusqu'au bout, va avec, aide ta chimiothérapie à être la plus active possible dans ton corps. Au contraire, à la limite, je dirais, médite pour accueillir le plus possible et le plus puissamment la substance. Ok, elle va faire des dégâts, mais elle va aussi tuer la maladie. Donc, une fois qu'on a fait son choix, eh bien, l'accueillir le plus profondément possible en soi, je trouve ça très bien. Mais dans le chamanisme, ou dans la sorcellerie, ou dans les différents rites que j'ai rencontrés, parce qu'à Cuba, il y en a beaucoup, hein. Il y a ce que l'on appelle la santeria, et c'est une sorte de vaudou. Il y a toujours des personnes qui utilisent ce genre de choses pour rendre service à l'autre, aux autres. Et puis, il y a d'autres personnes qui utilisent ce genre de choses pour prendre le pouvoir, ou pour essayer de le prendre, d'ailleurs. Parce que, bon, voilà. Et donc, très clairement, il faut comprendre la nature de l'esprit qui anime ces volontés-là. Alors, moi, j'ai souvent rencontré, à part le cas que j'ai cité, j'ai souvent rencontré, ou exclusivement rencontré, que des chamans, hommes ou femmes, d'ailleurs, avec des femmes remarquables, qui cherchaient qu'une seule chose, c'était justement d'être au service de l'humanité, d'être au service des gens qui venaient les voir. Et c'est ça qui était remarquable et remarquablement bien. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites par les Nations Unies, par le PNUD, justement, sur certains chamans pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient de tels résultats, de tels bons résultats. Et très souvent, il y a une incompréhension entre les deux mondes, le monde du chamanisme et le monde scientifique, qui fait que ces études n'apportent réellement rien de concret, parce que c'est tellement ce que l'on appelle intuitu personnel, le chamanisme. Ça dépend tellement de cette relation avec l'individu que c'est difficilement mettable en équation. Et à la sortie, toutes ces études montrent rarement des résultats probants. Et souvent, beaucoup se cachent derrière ce fameux état placebo qui, en fait, on met tout derrière et n'importe quoi, d'ailleurs. Et ça arrange bien les faibles en esprit ou les étroits d'esprit, parce que ça leur permet de se cacher derrière ça en disant « oui, c'est l'effet placebo ». Ils ne savent même pas ce que c'est, d'ailleurs, réellement, eux-mêmes, parce que l'effet placebo n'a pas été étudié. C'est ce que l'on ne sait pas qui est l'effet placebo, mais ce n'est pas étudié dans le détail. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder cette tranche de l'effet placebo pour dire « tiens, qu'est-ce qu'au fond il y a dans toutes ces nuances de l'effet placebo ?» Ça marche, mais ça marche comment ? Parce qu'on dit « oui, je t'ai donné de l'eau et ça a marché ». Oui, mais comment ? Allons plus loin. Pourquoi ça marche ? Qu'est-ce qui donnerait ces raisons ? Non, on dit « c'est un effet placebo ». C'est juste ça a marché parce que c'est juste la personne qui a cru, quoi. Mais derrière ça, il y a d'autres choses derrière cet effet placebo. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dire oui, et si c'était cet effet placebo, et si c'était quelque chose de fantastique qui se cachait derrière.
Voilà. Tu as fait l'expérience d'être traité par un chaman?
Alors oui, j'ai fait l'expérience d'être traité par un chaman, mais pas dans la notion de thérapie au sens profond du terme. Mais
oui, est-ce qu'on peut vivre ça par simple curiosité? Comment c'est proposé?
Je ne sais pas si on peut le vivre par simple curiosité. Moi, je ne l'ai pas abordé comme ça. Je l'ai abordé vraiment dans le sens de la rencontre avec un maître et de respecter sa maîtrise, son art et ce qu'il était. Sinon, ça ne servait à rien d'aller... moi, si c'est pour faire une rencontre, comme on regarde une vitrine, c'est inintéressant au possible. Donc, j'y suis allé vraiment comme on rencontre un maître. Et c'est vrai que la chose est intéressante et m'a bousculé. Et m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Je ne dirais pas que c'est ce qui m'a apporté les choses principales, mais ce sont des éléments qui ont apporté, tous les uns après les autres, des éléments dans ma vie. Et leur regard sur l'abeille, pour revenir à ça, pour certains qui étaient plus orientés vers les abeilles, a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, parce que moi j'ai rencontré une femme dont je parle dans le livre La Reine Africaine, qui est le roman. J'ai rencontré une femme qui, très inspirée comme ça, qui parlait aux abeilles, et qui était chaman, évidemment, enfin, marabout, hein, puisque ce côté-là de l'Afrique, ça s'appelait marabout. C'était une femme marabout, et très clairement, elle était extraordinaire, et elle m'a appris des choses remarquables sur, sur ce que j'appellerais l'abeille des abeilles, l'égrégore des abeilles, ou l'âme des abeilles, et tout ça. Et donc, oui, ça m'a fait réfléchir, et ça m'a apporté beaucoup d'éléments, énormément.
On fait encore une pause musicale. Je sais que tu aimes faire la cuisine. je te propose de découvrir peut-être Presque Oui, qui chante Les perroquets du Périgord.
J'ai bien écouté les infos, j'ai même vérifié dans le dico où c'était le Kurdistan. Bien qu'elle mange végétarien, j'ai prévu des filets de colin en plus du poulet au piment. J'ai mis du papier d'Arménie, vaporisé du patchouli, l'encens donne un côté mystique. Il fait pas froid pour la saison, on peut manger sur le balcon si jamais elle est asthmatique. J'sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Réserver les poivrons, déglacer les oignons, débiter les petits pois, ça veut dire quoi, déjà? C'est pratique, les placards muraux, j'y ai dissimulé le pêle-mêle, il y a des photos que j'assume pas trop. J'ai même acheté du détachant si jamais elle en venait aux mains avec le poulet au piment. J'ai choisi pour le fond sonore un truc qu'elle connaît pas encore, les chants d'oiseaux du Périgord. La nappe avec les perroquets, j'avais pas vu qu'elle était ronde parce que ma table elle est carrée. Pour le poulet, pas d'à peu près, je ferai tout comme sur le papier. Ébouriffer l'endive, motiver les olives, torpiller le calva, ça veut dire quoi, déjà? Prévoir un vase en quatre bouquets, ne pas le mettre en évidence au cas où elle y aurait pas pensé. Éviter les sujets qui fâchent, ne pas se ruer sur les pistaches, dans les toilettes, il y a du papier. Pour éviter tout incident, le bout de persil entre les dents dans la cuisine, mettre un miroir. Il y a des bougies sur le dessert, peut-être que c'est son anniversaire, il faut rien laisser au hasard. Je sors le dico une dernière fois, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Étouffer le merlan, le battre jusqu'au sang, rassurer les anchois, ça veut dire quoi déjà? J'ai suivi tout ce qui était marqué, mais c'est pas comme sur la photo. Si c'est qu'une question d'esthétique, je vais rajouter du basilic, ce sera tout vert, ça va faire beau. Y'a pas de mal à improviser, je fais confiance à mon instinct, je rajoute les filets de colin. Et si vraiment ça ressemble à rien, je passe le tout au presse-purée, ça peut s'étaler sur du pain. Après le poulet, pas d'à peu près. Quand j'ai mangé, j'ai plein d'idées. Lui proposer un scrabble, à danser nu sur la table, à la déglacer, fils, à la flamber au calva, à désosser l'invité. Ça se fait pas, je crois. Du persil dans les deux oreilles et l'armagnac sous les aisselles. Du guacamole, le creux des reins, les olives sur le bout des doigts. Qu'elle mange ou non végétarien. Moi je suis sûr qu'elle aimera ça. Moi je suis sûr qu'elle aimera ça. Moi je suis sûr qu'elle aimera ça.
C'était Presque Oui, le perroquet du Périgord. Voilà.
Ah oui, c'était très amusant. Très.
Alors nous, on ne va pas revenir au perroquet, on va venir aux abeilles.
Oui.
Et à cette maison d'édition donc, que tu as créée en 2010 seulement. Mais avant, il y a eu beaucoup de livres donc, qui étaient édités dans d'autres grandes maisons d'édition, par exemple.
La Thèse, Jean-Claude La Thèse, qui est une des top 10 des maisons d'édition françaises. Je disais tout à l'heure qu'il a édité le Da Vinci Code ou d'autres... grand roman et grand sujet. Voilà, c'est une grande maison d'édition. On y est d'ailleurs très bien traité. Ces gens-là sont vraiment très à l'écoute des auteurs. Moi, j'ai été étonné parce que, moi, c'était mon premier livre, Ces abeilles qui nous guérissent. J'étais en 2000. Et dans une grande maison d'édition, je me suis dit, on va être un numéro. Mais alors, pas du tout. Et on est très, très bien traité. Donc voilà, j'étais dans ces grandes maisons d'édition et c'est très sympa d'être édité. C'est une fierté, bien sûr. Je le cacherais que si je disais que, d'avoir des livres édités chez La Thèse ou chez Amiris en Belgique ou chez Alpen à Monaco où voilà, j'ai eu des belles maisons d'édition pour des sujets toujours autour de l'abeille, mais avec des livres différents, des petits livres, des grands livres, des romans ou des livres plus techniques, plus scientifiques, voilà. Mais c'est très agréable d'avoir pas à rechercher un éditeur quand on écrit. C'est exceptionnel.
Mais là, par contre, il a fallu, en 2010, créer sa maison d'édition. Donc, c'est
parce que ces différents éditeurs, mais principalement Lattès, ne voulaient pas sortir Mélipona, l'abeille sacrée des Mayas, parce que ça, il y avait trop d'investissements. Il fallait aller sur place, il fallait, voilà. Et tout d'un coup, quand je leur ai dit, il faut X dizaines de milliers d'euros, ils m'ont dit, pour un livre, mais vous savez que vous n'allez pas tourner un film. Je dis oui, mais. Et ils m'ont dit non. Et donc j'ai dit, je vais monter ma maison d'édition parce que je veux le faire, le livre. Et en fait, le livre a suffisamment marché pour payer l'entièreté des investissements.
Donc rien ne résiste à Roque Domérego.
Oh si, non, non, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais sur le coup des abeilles et de ce livre-là, c'est pas que c'était des vrais risques parce que je n'étais pas sûr du tout. Qu'il y aurait une écoute de la part des lecteurs, enfin des personnes, ou de la presse, et ainsi de suite. Et puis ça a été super, et ça a bien marché.
Donc,
après, il y en a eu derrière d'autres.
Un livre où il y a essentiellement, enfin, beaucoup, beaucoup de photos. C'est tout dans les tons, évidemment, couleur miel.
Oui, oui.
c'est assez magnifique. On aurait envie... Est-ce que ça n'a pas donné lieu à des tableaux d'abeilles, puisque elles sont...
Ah oui, j'ai fait des expos de ces photos aussi.
Avec cette pièce montée, là.
Oui, c'est le nid de l'abeille Mélipona, qui ressemble d'ailleurs, à s'y méprendre, aux pyramides mayas. Hein.
Oui, oui.
C'est quand même très intéressant. Mais c'est vrai que le texte derrière... C'est un texte où, au fond, j'amène les gens en promenade. Je les amène à la rencontre de ces chamans, à la rencontre de cette société, à la rencontre de l'histoire aussi, et puis à la rencontre de cette abeille. Donc, c'est un peu une réunion, je dirais, un condensé qui est à la fois de l'histoire, de la biologie, enfin, de la biologie, oui, de l'écologie, et puis une invitation au voyage dans la nature, avant tout.
Et alors, si je prends le livre « La thérapie au venin d'abeille », donc ça, c'est aux éditions, Baroque
oui,
Édition.
Voilà, c'est ça, c'est Baroque Édition aussi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le Mélipona, l'abeille sacrée des Mayas, je me suis dit, bon, mais maintenant que j'ai ma maison d'édition, je vais continuer à écrire, mais pour ma maison d'édition et pas pour les autres éditeurs. Et donc, il y avait un livre, je voulais finir un peu sur le thème de la pithérapie parce que j'avais commencé, mais je trouvais que je n'étais pas allé jusqu'au bout de certaines de mes connaissances. D'ailleurs, je voulais mettre par livre, mais aussi de mes expériences et puis aussi de ce qui se fait ailleurs sur la planète. Et donc, j'ai écrit ce livre, La thérapie au venin d'abeille, pour montrer que partout autour de la planète, il y a des gens qui utilisent le venin pour se soigner et pas simplement pour avoir peur.
Alors, comment on monte une maison d'édition? Il faut des moyens. Comment ça se passe, en fait?
Oui,
quelles sont les qualités essentielles pour y arriver?
Alors, je dirais que... La première qualité, c'est l'amour du projet que l'on a, parce que au fond, sans amour, on renverse pas des montagnes, on déplace pas des montagnes, et n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il faut déplacer des montagnes, et donc voilà, si on n'a pas cette base solide d'amour de ce que l'on va faire. C'est même pas la peine, parce que sinon, au bout de quelques mois, quelques années, on devient taciturne, on devient aigri, on devient parce que c'est tous les jours des paramètres, les uns après les autres, des difficultés, des éléments qui sont plus ou moins faciles, et c'est pas tous les jours réjouissant. Donc, si on n'a pas cet amour de base du projet que l'on va mener, ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier point. Alors après, il faut des moyens financiers. J'en avais à l'époque suffisamment pour dire, tiens, je peux me lancer sur un projet comme ça.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te conseiller dans ces cas-là? Comment tu te lances dans ce projet? Parce que c'est pas évident quand on n'est pas du métier.
Ça faisait des années que j'écrivais, j'avais dirigé d'autres entreprises, donc le fait d'avoir tous ces paramètres faisait que c'était pas en soi un risque qui me paraissait insurmontable. Et puis derrière ça, il y a aussi une part de doute. Et puis, il y a aussi une part de dire, ben, il faut y aller, quoi. Il faut se lancer et on verra bien. Parce qu'à un moment donné, sinon, si on veut tout réfléchir et tout contrôler, tout maîtriser, on ne fait rien. La vie, c'est c'est risqué de vivre. Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre des risques et puis dire, ben, OK, j'y vais aussi. J'ai pour habitude de dire que la marche, c'est une succession de chutes contrôlées. Et au fond, il faut accepter de se mettre en déséquilibre pour avancer. Ben c'est ça, au fond, remonter une entreprise, c'est accepter de se mettre en déséquilibre pour avancer. Et j'avais vraiment cet amour des livres et du savoir et de la transmission pour le faire. Voilà. Mais monter une maison d'édition régionale, parce que moi, c'est une petite maison d'édition régionale, c'est extrêmement risqué. Mais c'est passionnant. Voilà.
Est-ce que on peut faire appel à ta maison d'édition pour faire publier quelque chose?
Oui, oui, bien sûr. Si ça reste dans la ligne éditoriale de la maison d'édition, parce que on ne fait pas une maison d'édition sans une ligne éditoriale. Mm-hmm. Sauf les très grosses qui ont plusieurs lignes éditoriales avec des directeurs d'édition qui ont chacun leur ligne éditoriale. Mais moi, j'ai une ligne éditoriale qui est l'écologie du corps et de l'esprit. Donc voilà, cette année, j'ai sorti aussi un livre qui s'appelle « Le thérapeute et le patient »
on va en parler justement.
Du docteur Théodore Cherbulier. Et voilà, c'est dans la pure lignée de la ligne éditoriale. C'est pas sur les abeilles, mais c'est sur l'écologie de l'esprit, c'est-à-dire une réflexion sur la thérapie et l'approche thérapeutique et la relation entre le thérapeute et le patient. Et ce docteur, cet homme-là, Théodore Cherbulier, a plus de 50 ans d'expérience, c'est un jeune homme de 86 ans, qui enseigne encore dans les facultés, qui est un homme remarquable. Et cet homme-là a vraiment des choses à dire avec une réflexion globale sur la santé psychique, la relation entre le thérapeute et le patient, mais qui va bien au-delà de la simple relation thérapeutique du psychologue ou du psychiatre, puisqu'il est pédopsychiatre, il est psychiatre et pédopsychiatre. Mais ça va même de la relation entre le thérapeute et le patient. Tous les médecins devraient lire ce bouquin, et toutes les infirmières devraient lire ce bouquin, juste pour comprendre et avoir une autre vision. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'un grand pédiatre et pédiatre américain, qui s'appelle Otto Kahnberg, qui lit très très bien le français, a lu le livre, et il veut faire la préface pour la version américaine du livre, parce qu'il a trouvé remarquable ce qui était dit dans ce livre. Voilà. Et ça fait énormément plaisir d'éditer un livre comme ça. Ça laisse une trace, ça laisse quelque chose, et ça c'est fondamental pour moi. Et puis c'est énormément de travail, hein, parce qu'il faut 18 mois, 19 mois d'ailleurs dans le cas présent de la thérapie, du thérapeute et du patient. Il a fallu 19 mois pour sortir le livre. Donc ça ne se fait pas en 5 minutes, il y a une vraie réflexion, il y a un vrai parcours.
Et puis on va en venir donc à ce petit bijou, ce dernier né. C'est une bande dessinée dont la dessinatrice est Evelyne Duverne, que tu as trouvé en faisant un concours qui a duré longtemps aussi. Il y a eu beaucoup de personnes se sont manifestées. Quel était le rappel de la demande la réalisation de ce...
Ah ben c'était Dessine-moi la princesse Mélipona, la princesse Maya, puisque le sujet de la BD, c'était une légende. Quand j'avais rencontré ces chamans, ils m'avaient parlé d'une légende de cette princesse qui parlait aux abeilles. Et donc, voilà, j'ai lancé un concours national de dessin. J'avais écrit le scénario de la BD et j'ai lancé un concours national en disant à tous ceux qui le veulent, ben, dessinez-moi la princesse Maya. Et alors, on a eu énormément de réponses, mais pas trop non plus. J'avais fait le concours légèrement payant, participation aux frais administratifs, 5 euros, justement pour éviter qu'il y ait énormément et qu'il y ait que les professionnels qui viennent. Et on a eu 130 réponses. Et sur les 130, il y avait plus de 100 professionnels. Et sur les 100 professionnels, il a fallu... J'avais demandé à des personnes d'être membres du jury.
Alors, quelles personnes ? Des professionnels aussi ?
Ah oui,
alors.
Il y avait des professionnels. Il y avait le PDG de BD World, qui regroupe... C'est une société qui a les plus grandes surfaces européennes de vente de BD. Et puis, il y avait le directeur des Beaux-Arts ici de Digne. Il y avait un directeur de la communication parisien. Il y avait une directrice de projet chez... comment on appelle une grande maison de production, la Warner. Voilà, c'était des gens du métier et qui étaient là pour juger. Et d'ailleurs, Evelyne Duverne a été choisie à l'unanimité. Et donc c'est elle qui a gagné le concours et on a travaillé ensemble pendant plus d'un an pour faire cette BD.
Alors des dessins magnifiques qui me font penser un peu à Mowgli, un peu le livre de la jungle, le personnage avec ses grands yeux. Donc des dessins magnifiques en couleur avec l'histoire. Donc c'est toi qui es à l'origine de
cette histoire,
c'est de moi cette qui histoire le scénario, bien sûr, oui. Le scénario. Alors inspiré toujours par cette légende
et les Mayas. Alors au fond et puis on parle d'abeilles évidemment, ça c'est obligatoire. Mais cette légende m'avait été évoquée, pas l'histoire telle qu'elle est racontée là. Après moi j'ai romancé, j'ai mis ma créativité, mais au fond, il semblerait qu'il y ait eu une princesse dans les temps très anciens des Mayas qui parlait aux abeilles et qui parlait à la nature grâce à l'interface des abeilles. Et donc, ça m'a intéressé et tout de suite, j'ai vu une bande dessinée. Je me suis dit, là, il faut parler aux enfants comme ça. Il faut leur montrer la beauté de la nature à travers cette princesse. Et c'est le sujet du tome 1. Parce que
donc, c'est un peu un livre éducatif, philosophique.
Oui, c'est un conte
initiatique. Voilà. Et qui s'adresse aux enfants, mais bien sûr aux adultes aussi. Parce qu'on aime les belles histoires aussi. On aime les beaux dessins, les jolis contes. Donc c'est le tome 1 et il aspire à un tome 2 bien sûr.
Alors ah oui, c'est le propre même de toute création, c'est de se dire tiens, ça a marché et ça a marché suffisamment pour que on continue l'aventure. Ça c'est clair définitivement. Maintenant comme tout éditeur, j'ai aussi l'envie que ça marche mais aussi le regard cru. Mais ça démarre très très bien, les ventes démarrent très très bien, l'accueil des professionnels est très bon.
On peut s'adresser donc à toi,
baroqueedition.com,
sur le site.
Ou alors, chez tous les éditeurs à Digne, par exemple.
La Ruelle, la Maison de la Presse aussi.
Oui, La Ruelle, la Maison de la Presse, mais aussi Carrefour. Voilà, ils sont de partout, ça c'est clair. Et très heureux que tout le monde ait joué le jeu comme ça. Voilà. Et il faut aller chez eux parce que vraiment, ils font un boulot remarquable, tous ces libraires.
Mélipona, la princesse Maya, donc de Roch Domérego et Evelyne Duverne. On rappelle donc encore l'histoire. Mélipona, une jeune princesse destinée à régner sur un royaume Maya où il fait bon vivre. Elle vit dans l'insouciance de son âge jusqu'au jour où elle va découvrir à la fois la méchanceté de certains hommes et la bonté de la nature. C'est vraiment un livre d'actualité. Hein
oui.
Élevée avec un jaguar comme sœur de lait, amie d'un fils de paysan, elle va devenir l'élue des abeilles sacrées des Mayas, messagère du dieu de la vie. Un conte initiatif qui fait le bonheur des enfants et des adultes, bien sûr, par la tendresse qui se dégage de l'histoire, aussi bien que par la beauté des images qui transportent au cœur de cette civilisation fascinante, au prix de 12,50 €.
Voilà, c'est ça. C'est le prix moyen des BD en France, et celle-là ne déroge pas à la règle, c'est le prix normal d'une BD. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on en tout cas, quand j'ai écrit le scénario, j'ai voulu sortir de ce qui se faisait actuellement un petit peu trop violent à mon goût, et avec des bandes dessinées qui ne sont pas suffisamment, je dirais, finies. Je les trouvais trop rapides, je les trouvais trop succinctes. J'avais envie de retourner un petit peu comme on découvrait avant, des bandes dessinées avec des beaux dessins, un vrai travail élaboré, un peu à l'image des Walt Disney, quoi. Donc j'avais envie de faire quelque chose que j'appellerais de classique dans la bande dessinée, esthétique, beau, avec une belle image, pas de violence, une histoire qui est jolie, qui donne envie, avec un peu d'intrigue, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose, mais sans forcément que les enfants aient encore une fois une couche de violence en lisant une bande dessinée, mais plutôt que ça nourrisse leur envie de rêve, leur part de rêve, et aussi leur art. Parce qu'en faisant quelque chose de beau, au fond, on nourrit l'enfant et on nourrit l'art qui est dans l'enfant.
Alors, à la fin de cette magnifique BD, on a la chance de pouvoir voir de très belles photos ouais. Issues des précédents livres,
oui.
Avec cette ruche.
Je trouvais important aussi de dire aux enfants, à la fin de la BD, oui, mais vous savez, ça existe vraiment. C'est pas juste une histoire racontée comme ça. Ces abeilles existent encore. Et donc, j'ai mis quelques photos de ces abeilles pour dire, voilà, c'est pas juste une histoire qui, dans un monde imaginaire, ce monde, ces abeilles existent toujours.
Alors moi qui aime le son aussi, j'aurais envie presque d'en voir un dessin animé.
Ah, ça, c'est ça serait l'aboutissement,
encore possible, la prochaine étape peut-être.
Ah, ben, c'est l'aboutissement de toute personne qui crée un scénario et qui écrit une bande dessinée, et de toute personne comme Evelyne, avec qui je m'entends vraiment très bien, qui dessine et qui crée un personnage comme ça. L'aboutissement, c'est d'arriver aussi au dessin animé. Ça, c'est...
Parce que là, on a presque tous les sens satisfaits, hein, entre la vue, si on trouve une belle musique et des belles voix, et pour cette belle histoire. Hein. Donc, à réfléchir, à méditer. En tout cas, il y aura certainement un beau succès avec cette belle bande dessinée Mélipona, la princesse Maya. Aux éditions Baroque Éditions.
Oui.
On peut commander ou alors se rendre à la ruelle ou voilà, dans toutes les librairies.
Oui, c'est ça, oui, dans toutes les librairies de Digne, mais de France. Hein, mm-hmm. Et puis, il y a les librairies spécialisées en BD. Hein, il y a tout le réseau Canal BD, tout le réseau BD World, tout le réseau Fugue.
Sur Internet.
Non. Sur les magasins spécialisés. Il y a des librairies spécialisées dans le monde de la BD.
D'accord.
Et nous sommes dans ces librairies-là aussi, justement pour permettre à ces gens-là de d'abord, ils sont incontournables parce que la plupart des amateurs de BD vont dans leurs magasins. Et puis d'un autre côté, c'est au fond le regard de professionnel. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette BD et tout ça. Et on a été très, très bien accueillis.
Alors justement, tu as sélectionné donc une dessinatrice pour cette BD. Est-ce que maintenant, c'est à ton tour d'être jugée et de participer à des concours de bande dessinée? Ça existe?
Alors, oui.
Le présenter?
Ah oui, on le présente pour avoir des prix comme de partout. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est clair qu'après, une fois que la BD est créée, il faut la faire vivre. Et la faire vivre, c'est participer à des concours, c'est participer à des salons, c'est faire des dédicaces. C'est ce genre de choses. Ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus fabuleux dans l'histoire, c'est de partir d'un papier vierge, d'une feuille blanche, et d'arriver 2 ans après à avoir une histoire qui est imagée, qui a des scènes, qui a des prises de vue.
Est-ce que ça ressemble à ce que tu avais imaginé ? Puisque c'est pas c'est évident
même,
quand on
c'est
a...
C'est même plus beau parce oui. que j'ai eu la chance de tomber sur Evelyne Duverne, avec qui on s'entend très bien, et elle a cette qualité de dessin qui est exceptionnelle. Et c'est plus beau que ce que je visualisais, parce qu'elle est plus douée que ma visualisation pour faire les dessins. Et donc elle a fait quelque chose de remarquable. Elle a créé des personnages vivants, présents, avec des beautés, des harmoniques de couleurs, des situations et des scènes et des prises de vue bien spécifiques, des plans, hein, ce qu'on appelle bien spécifiques. Et je trouve qu'elle a apporté une dimension, une superbe dimension. C'est extraordinaire que de créer quelque chose à deux comme ça. Voilà. Puis je voudrais pas oublier non plus que dans cette aventure, il y a aussi... Un ami avec qui je travaille et j'écris depuis des années aussi, parce qu'on a écrit des choses à deux, et entre autres La Reine africaine dont on parlait tout à l'heure, c'est Christian Blanchard, qui est vraiment aussi quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, et on travaille en étroite collaboration. On travaille un peu comme si on faisait des concertos à quatre mains, toi la musicienne.
Ah oui.
On arrive à comme ça à travailler ensemble très près. Et puis maintenant il y a Evelyne qui s'est mis, et ça devient un trio, hein. Mmh. Et c'est très chouette.
Rock, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire et que j'ai oublié de te demander ?
Oh oui, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand on est dans une aventure comme ça, Eh bien, il y a des amis autour de nous, et tu en fais partie, qui sont les amis qui soutiennent ce genre de projet. Et c'est très important aussi, parce que une aventure telle que celle-là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'interrogations aussi au niveau artistique, c'est beaucoup d'émotionnel, c'est ce genre de choses est très difficile à vivre dans le sens du quotidien, parce qu'on est plein d'interrogations, on est plein de questionnements, est-ce que le projet qu'on est en train de faire va plaire, est-ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose d'important, parce qu'on va s'adresser aux enfants, et heureusement qu'il y a aussi tout un ensemble de personnes autour de nous qui nous soutient, qui nous aide et qui est vraiment présent à nos côtés. Et il y a quelques amis, ma sœur et quelques amis qui ont vraiment compté autour. Et bien ce soir, je suis en face d'une. Voilà. Et ça, c'est important parce que, ben voilà, tu m'as dit, allez, viens, on parle de ça parce que je l'aime, ta princesse. Et voilà, ça fait partie de ce genre aussi de parcours où on n'est pas seul. Et heureusement, d'ailleurs, parce que c'est quasiment pas faisable seul.
Et alors, on n'a pas eu le temps de parler trop de ta passion pour les chevaux aussi, mais c'est un amour des chevaux aussi. On pourrait
oui.
Peut-être un jour, tu viendras à faire une bande dessinée avec une histoire sur les chevaux.
Oui,
ou...
j'ai moins l'expertise. Je suis plus un élève avec les chevaux plutôt que plus une expertise comme j'ai avec les abeilles. J'apprends tous les jours avec les chevaux. Et je monte en éthologie, c'est-à-dire que j'ai une relation très très différente avec les chevaux de l'équitation classique. Et c'est un parcours où tous les jours on apprend. Et voilà, c'est magnifique, c'est magique. Et c'est indispensable à ma vie, quoi. Voilà, la relation avec les animaux, la relation avec les humains. Et la solitude, ces trois paramètres qui sont importants et indispensables à ma vie.
Je te remercie d'être venu pour cette émission un peu particulière pour parler de ta maison d'édition, mais aussi un peu plus de toi et de ton parcours. Et bien sûr, je recommande ce livre pour tous les enfants et adultes. Ça fait partie des livres qu'on doit avoir dans sa bibliothèque. Mélipona, la princesse Maya. Et on peut la trouver donc dans toutes les librairies d'ici et d'ailleurs.
Oui.
Et sinon aussi sur ton site Mélipona, la princesse Maya.
Merci, merci de cet accueil et de cette émission. Merci à toi.
Et on va se quitter. On fait un petit coucou à Michel Akers aussi, qui s'occupe très bien des chevaux.
Ah oui.
Et on va se quitter avec une heure, c'est trop court. Voilà, de presque oui. Encore. Au revoir.
Au revoir.
Et on rappelle donc ton émission ce soir.
Ah oui.
Au service de ma ville, à 20h15. Au revoir, Rock.
Au revoir.
Une heure, c'est trop court pour oublier, pour se faire de nouveaux souvenirs. Une heure, c'est trop long pour ne pas revenir sur sa décision, c'est con, je veux partir. Une heure, c'est trop court pour faire un ourlet, mais quand c'est trop long, ben c'est laid. Une heure, c'est trop long pour en faire le tour quand t'as pas de chaussures aux pieds. Une heure, c'est trop court pour s'habituer quand t'es pas né sous la pluie. Une heure, c'est trop long pour danser le long des golfes clairs, on s'ennuie. J'aime pas la mer. Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop long quand on veut faire court. Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop court pour trouver ça long. On sait qu'au fond, il n'y en aura pas des millions. Une heure, c'est trop long pour le petit Léon qui est tout seul à la maison. Une heure, c'est trop court pour les papillons qui crèvent à la fin du jour. Une heure, c'est trop long pour les petits poissons qui s'agitent au courbouillon.
Je veux pas bouillir.
Une heure, c'est trop court pour faire demi-tour quand c'est l'heure trop tard. Une heure, c'est trop court pour se mettre à jour, il y a bien des années de retard. Une heure, c'est trop court pour faire un détour et pour être à l'heure du cours. Une heure, c'est trop court quand c'est la dernière.
Et même si tu cours,
je veux pas mourir.
T'es mort.
Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop long quand on veut faire court. Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop court
pour trouver ça long.
Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop long quand on veut faire court. Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop court
pour trouver ça long.
Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop long quand on veut faire court. Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop court
pour trouver ça long.
Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop long quand on veut faire court. Une heure, c'est toujours soit trop long, soit trop court. C'est un peu trop court
pour trouver ça long.
People who are God, Yegba, for the ones not yet born. Oh, for the people who are yay, 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 for the people. Peace, for the people who are gone. Yegba, for the ones not yet born. Whoa, for the people who are yay, 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 yay. For the people, I cry when I see that I am born. I leave when I see what I am to do. Cause life is all about all you sitting and looking at me. Just take one step at a time, cause if you jump, you will never believe the thorns of life that my wanting and waiting for me and you. They make it, but I say, I want to run away. Run away. If you jump, you will never believe the thorns of life. Am I wanting and waiting for me and you? They make it better, say, I want you.